Chez moi, bah, on a deux poubelles pour le plastique parce qu'elles sont petites et une grande pour la nourriture, les choses alimentaires, etc.
Par exemple, mes parents, ils achètent tout le temps que les fruits, tout le temps sur le marché. Donc au boucher, ils ne vont pas acheter de la viande sous plastique et tout ça.
Chez nous, on a un bidon d'eau chaude. Du coup, pour se laver, on a un nombre de litres maximum d'eau chaude, ce qui fait qu'on ne reste pas 3 heures sous la douche.
On n'achète pas beaucoup de vêtements parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui nous donnent leurs vêtements.
Moi, je sais que ma mère, elle n'achète jamais de l'eau en bouteille. On prend que de l'eau du robinet.
Par exemple, pour Noël, nos parents ne nous demandent pas trop demander des trucs sur-emballés, enfin, pas trop aller genre sur Amazon, des trucs comme ça.
Il y a quelque chose qui m'énerve, c'est mon grand-père. Il fait que se faire livrer des choses et ça m'énerve, mais il n'écoute pas beaucoup.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Rabat-joie, il n'y a pas d'autre mot. J'ai l'impression d'être rabat-joie quand j'explique à mes enfants que non, le calendrier de l'Avent plein de petits jouets en plastique n'est pas indispensable. Ou qu'on peut se passer de ce magazine qui propose en cadeau un super gadget qui sera cassé demain. Je suis rabat-joie quand je tente de les sensibiliser à notre surconsommation. Mais ne le seraient-ils pas, eux aussi, quand ils me grondent parce que j'ai laissé allumer la lumière de la salle de bain ou parce que j'ai fait une erreur de tri des ordures? Les enfants sont souvent le moteur du changement. Intéressons-nous cette semaine à ce double mouvement durable. Comment nous pouvons sensibiliser les plus jeunes à protéger la planète et comment eux nous aident à changer? Fabriquer soi-même, trier, recycler, éviter de gaspiller. La liste est longue des choses à faire à la maison, mais aussi en classe. Nous parlerons des éco-délégués qui sont des élèves élus au collège et au lycée pour donner l'exemple en matière de gestes pour l'environnement. Au programme également, notre rendez-vous avec Denis Chessou. L'as-tu lu, mon petit loup ? Ses coups de cœur parmi les sorties en littérature jeunesse. C'est parti, les enfants, tous éco-citoyens.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Avec deux invités en studio, un troisième nous rejoindra par téléphone tout à l'heure. Bonjour Guy Medfort.
Bonjour.
Et bonjour Manon Cousy.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux. Vous nous poussez, toutes les deux, chacune dans votre domaine, à réfléchir avec les enfants à nos modes de vie et à les rendre plus respectueux de la planète. Manon Cousy, vous êtes la cofondatrice du Lab Mobile qui organise des ateliers d'éveil à l'environnement par le bricolage. Vous proposez à nos enfants de fabriquer, de bidouiller, de faire eux-mêmes. Ce sont aussi des vidéos à voir sur la plateforme Lumni, également des stages et des ateliers organisés à l'école, mais pas seulement. Durablement débrouillard, c'est votre slogan, ça résume bien la démarche ?
Tout à fait. Voilà, on veut que les enfants soient des êtres durablement débrouillards, qu'ils aient envie, qu'ils soient conscients et qu'ils fassent part eux-mêmes pour faire mieux pour la planète.
Vous allez nous donner quelques exemples au fil de l'émission, des exemples de bricolage. Guy Medfort, vous, c'est pour le frein à la surconsommation que je voulais vous inviter aujourd'hui. Vous êtes journaliste et vous avez publié chez Casterman une bande dessinée qui donne de précieuses pistes aux enfants et aux ados. Ça s'appelle Consommation, le guide de l'anti-manipulation. Alors dans cette BD, c'est un grand-père et non pas un père ou une mère qui explique aux enfants les pièges du marketing. Est-ce que c'est une façon de signifier que les parents n'ont aucune leçon à donner
exactement,
en la matière.
Exactement. Je voulais surtout pas que ce soit des parents qui fassent la morale à leurs enfants dans cette bande dessinée, parce que je trouve que finalement, quand il faut expliquer à des enfants que quand il achète une petite pochette Panini, en fait, est-ce qu'il a compris qu'il lui en faudra 150 pour faire un album ? Ben le parent qui pense que quand il achète un téléphone, il paye 8 € par mois et qui regarde pas combien de mois il y aura, finalement, il vaut pas beaucoup mieux. Ou quand on dit, quand un enfant, après avoir acheté un truc qui est pas cher, veut acheter toutes les extensions, bah finalement, quand on est parent, quand on est au restaurant et qu'on dit, tiens, je vais prendre le café gourmand, ou quand on est chez le coiffeur, qu'on vous dit, je vous fais un soin, en fait, on fonctionne exactement de la même manière.
Donc, quand on prend le soin chez le coiffeur, on se fait avoir par le marketing.
Oui, pareil. Ou même, par exemple, des enfants au McDo qui veulent absolument avoir le Happy Meal, parce qu'il va y avoir un jouet gratuit, bah, quand on est sur un salon professionnel et qu'on voit des adultes qui font la queue pour avoir un tote bag avec un crayon publicitaire à l'intérieur, c'est pas très différent.
Balayer devant la porte des parents d'abord. Barbatruc, réalisé cette semaine par Anne-Cécile Perrin avec Julien Dumont à la technique. Préparation Mao de Butler.
66 on DVD.
C'était Wet Leg sur France Inter, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. L'écologie au quotidien, à hauteur d'enfants ou d'ados. Nous nous intéressons cette semaine dans Barbatruc aux mille et une façons de sensibiliser les enfants à la protection de la planète ou de progresser avec eux, grâce à eux. Guy Medfort est mon invité, autrice d'une BD pour apprendre à mieux consommer, ainsi que Manon Cousy, cofondatrice du Lab Mobile, qui propose, je le disais, des ateliers de bricolage à voir sur l'UMNI, plateforme de France Télévisions, et sur Bayam, la plateforme de Bayard Jeunesse. Alors, on le disait, ce sont des ateliers bricolage, bidouillage, fabrication. Par exemple, on a pris notre exemple préféré, une flûte dans une carotte. Écoutons ce que ça donne.
T'es prêt? Alors, moi, je...
Alors attention, là. Attention, parce que là, quand même, après ces 427 heures de travail à la maison, c'est ça qui est sympa, c'est que pour le coup, c'est un vrai truc chouette à faire avec les parents et tous ensemble. Mais est-ce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit déceptif. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'arrivée, on soit impressionné, maintenant, tu le sais.
Donc, déjà, il faut savoir jouer de la flûte. Voilà. Moi, ce n'est pas trop mon cas. Il ne faut pas souffler trop fort, il ne faut pas souffler trop peu. C'est vraiment une question de mesure.
Allez, alors, ne fais pas durer le suspense plus longtemps, ce n'est pas possible. Non mais attends, mais c'est pas mal. Non mais attends, c'est pas mal du tout.
Bon, on peut se moquer gentiment de la prouesse musicale, mais c'est une prouesse technique, Manon Cousy. Fabriquer une vraie flûte dans une carotte, vous le montrez en image. C'est pas si compliqué que ça, et c'est assez impressionnant sur le plan technique.
Bah ouais, finalement, c'était à l'époque du confinement, fallait faire avec ce qu'on avait, donc j'essayais de trouver des activités qu'on puisse faire à la maison, tout simplement. Donc on utilise une carotte, mais après, faut pas la gaspiller, donc on la met dans le compost, hein, évidemment.
En quoi est-ce un atelier d'éveil à l'environnement, un atelier durable?
Alors, en fait, nous, à travers nos ateliers, on va vraiment vouloir faire prendre conscience aux enfants de l'importance de tous nos gestes au quotidien. Donc, en fait, par un jeu, en général, on va leur faire découvrir une thématique, que ce soit les vêtements, le gaspillage alimentaire, le traitement des déchets. Surtout, faire par soi-même, plutôt que d'aller consommer, on leur apprend qu'ils peuvent fabriquer leurs jouets par eux-mêmes. Pourquoi pas prendre un morceau de carton, se fabriquer un jeu de petits chevaux. Voilà. Plutôt que d'aller l'acheter.
C'est un geste pour l'environnement, mais c'est aussi une manière de donner confiance aux enfants, hein, de les inciter à être fiers de leurs mains, tout simplement.
Tout à fait. Ce qu'on remarque, c'est que les enfants passent quand même de la maternelle, où ils font beaucoup d'activités manuelles, au primaire, où on leur demande d'être assis en classe et d'apprendre plein de nouvelles notions, mais plus tellement de bricoler, de faire avec les mains. Donc là, c'est ce que nous, on a vraiment à cœur à travers nos ateliers, c'est de continuer à développer toutes ces compétences manuelles, de leur donner envie de faire par eux-mêmes et d'acquérir des compétences, que ce soit en couture, en bricolage, travail du bois, et juste aussi de voir des déchets, de se dire qu'est-ce que je peux en faire? Ah bah tiens, je pourrais peut-être inventer quelque chose.
Il y a une règle toute simple qu'on apprend au fil de vos ateliers et de vos vidéos, Manon Cousy, ça ressemble un peu à une comptine pour enfants, c'est la règle des 5 R, la règle du zéro déchet. On peut rappeler ce que sont ces 5 R?
Oui, bien sûr. Donc le premier R, c'est refuser. Donc apprendre à refuser ce dont on n'a pas besoin. Par exemple, quand on prend un menu dans un restaurant, est-ce qu'on a forcément besoin d'accepter la boisson qui va être une canette qui nous intéresse pas forcément parce qu'on
alors
a,
qu'on a sa gourde.
Gourde. Mmh. Et ben voilà.
Même si ça, c'est gratuit, on peut refuser.
On peut refuser. Mmh. Et en plus, on créera moins de déchets. Le second R, c'est remplacer. Donc, on va chercher à remplacer tout ce qui est jetable dans notre quotidien. Donc, tout simplement, utiliser, je reviens à l'exemple de la gourde, mais utiliser une gourde plutôt qu'une bouteille, utiliser des boîtes à goûter dans lesquelles on met nos goûters faits maison, plutôt que des goûters suremballés. Donc, on élimine tout ce qui est jetable. Réutiliser tout ce qu'on peut dans notre quotidien. Donc, on va réutiliser du carton, des boîtes à œufs, des morceaux de tissu pour créer autre chose, leur redonner une seconde vie. Ensuite, on a le recycler, évidemment, le quatrième R. Donc, recycler, les gens connaissent plutôt bien, mais sachez que on pense d'abord aux trois précédents R avant d'arriver au recycler. C'est vraiment pas la solution la meilleure. Et le dernier qui est rendre à la terre avec tout ce qui est compost.
Voilà, et ça c'est quelque chose qui plaît aux enfants, l'air de rien, les 5 R. Vous ressentez chez eux une fierté d'avoir repéré un R dans leur vie quotidienne ?
Complètement. J'anime des ateliers de façon hebdomadaire et j'ai un groupe actuellement qui est vraiment à fond. Et à chaque début de séance, on commence par dire ce qu'on a fait la semaine dernière et qui répond à un des R. Donc ça va être, alors moi j'ai utilisé une boîte de céréales pour me fabriquer une poubelle de tri pour ma chambre.
Voilà.
Donc c'est super.
Refuser, remplacer, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Guy Medford, l'éducation à la consommation, est-ce que c'est une mission pour les parents, d'après vous ? Est-ce qu'on a les armes pour ça ?
Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que je trouve qu'il existe quand même pas mal de choses pour les parents, enfin pour les enfants plutôt, sur l'éducation citoyenne, à la démocratie. Il existe pas mal de choses sur l'éducation à l'environnement. Mais alors que la consommation, enfin au sens acheter, c'est quand même une de nos principales activités, c'est quand même ce qui va décider de la liberté qu'on va avoir dans le métier qu'on aura plus tard, hein, le fait de est-ce qu'on va dépenser plus que ce qu'on gagne ou pas. Et donc, autrefois, dans les filières professionnelles, il y avait pour les filles des cours qui s'appelaient gestion familiale, tenir un budget, etc. Enfin, considérer que ça faisait partie des attributions de la future mère. Et en fait, on a enlevé ça, mais on l'a remplacé par rien, alors qu'en fait, on aurait mieux fait d'apprendre ça à tout le monde. C'est-à-dire que les enfants, ils vont rentrer dans des magasins où tout ce qui a été mis en rayon a été pensé par des milliers de chercheurs en marketing qui vont avoir étudié des choses que eux n'ont pas étudiées. Et donc, on compte sur le fait qu'ils vont comprendre que, attention, la semaine de solde ou que pourquoi on dit le deuxième à moins 50% et pas les deux à moins 25%. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont face à eux. On peut, par exemple, le fait que sur les boîtes de céréales, les personnages regardent toujours vers le bas pour croiser leur regard. Enfin, si je vous fais remarquer, par exemple, que dans les hypermarchés, vous rentrez toujours par la droite, bah, en fait, tant qu'on ne l'a pas vu,
Qu'est-ce que ça change, d'entrer par la droite ?
Parce que la plupart des gens sont droitiers et on part du principe que vous allez tourner du coup dans le sens inverse des aiguilles du monde avec la main droite qui sera libérée pour remplir le caddie. Mais enfin bref, toutes ces petites choses-là qui sont invisibles et qui nous poussent à consommer, c'est pas possible que dans le cerveau d'un enfant et même dans celui d'un adulte, qu'on arrive à décrypter ça tout seul. Donc l'idée, c'est un peu de leur redonner la main, qu'ils puissent finalement faire les achats dont ils ont vraiment envie et pas les achats dont les directeurs du marketing ont envie pour eux.
Voilà, la meilleure manière de consommer mieux, de consommer moins, c'est d'avoir conscience des outils qui ont été utilisés pour nous faire consommer plus.
Parce que l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne produit pas.
Alors agir pour la planète, ça se passe pas seulement dans la vie quotidienne, à la maison, mais aussi à l'école, au collège, au lycée. Et pour ça, il y a les éco-délégués. C'est le même principe que les délégués de classe, mais pour installer le développement durable dans la vie scolaire. C'est un dispositif assez récent. L'élection d'un éco-délégué par classe est obligatoire au collège et au lycée depuis l'an dernier. Elle est possible aussi, mais facultative, en CM1 et en CM2. Les élèves qui sont élus éco-délégués sont invités à mettre en place des projets durables dans leur établissement pour éviter notamment le gaspillage, pour économiser l'énergie, etc. Je vous propose qu'on se penche sur un exemple concret. Notre reporter Juliette Proutot a promené son micro au collège Georges Courteline dans le 12e arrondissement de Paris. Avant de rencontrer les élèves, elle a discuté avec Stéphanie Vignette, qui est secrétaire de direction du collège.
À l'origine, c'est vraiment venu de notre part, nous, d'adultes, en fait. On avait envie de faire bouger des choses. Et puis, on a proposé aux élèves. Et en fait, l'idée de la mare, c'est venu d'eux. Pour la serre également. C'est venu d'eux. On s'est demandé ce qu'on allait faire des légumes et des fruits qu'il y aurait dans notre serre. C'est venu d'eux, le côté de donner à soit une association. Et donc là, on a trouvé le café associatif juste à côté de chez nous. Et donc, ça vient vraiment. On est là pour les guider, mais les idées, elles viennent toujours d'eux. C'est eux qui amènent toujours le plus. C'est toujours les élèves. C'est des élèves qui se présentent chaque année lors des élections des délégués. Et on se réunit une fois par semaine pendant une heure. Et donc, on met en place des projets sur l'année. Donc, les bouchons en plastique, les rouleaux de papier toilette. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de leur quotidien. Ils ne peuvent pas le rater. C'est dans le hall du collège. Donc ça, ces points de collecte sont partout. Ils le voient. C'est faisable sans aucun problème. Et puis, les élèves portent tous ces projets.
Alors, posons la question aux élèves, bien sûr. Pourquoi ont-ils voulu devenir éco-délégués ?
Je trouve que tout seul, chez soi, on peut quasiment rien faire. Alors qu'avec le collège, il y a le compost à s'occuper, il y a plein de choses à faire. Et puis, on a une heure par semaine pour s'en occuper. Je trouve ça trop bien.
Au départ, on n'était pas des éco-délégués. On faisait juste partie de l'atelier biodiversité. Et ça n'a même pas été vraiment une question qu'on s'est posée. C'était juste quelque chose de spécial qu'on faisait qui nous donnait envie d'avancer.
Il y a des gens, ils pourraient dire ça te gâche une heure, enfin ça te gâche pas, mais ça t'enlève une heure de ta pause. Déjà, on s'amuse bien, franchement. Comme ça, on s'ennuie pas. Et en plus, c'est bien pour le collège et tout. Donc franchement, autant le faire. Hein.
Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement dans ce collège parisien ? Eh bien, les démarches durables ici sont assez bluffantes, je dois dire. Au programme aujourd'hui, passage par la cantine scolaire pour récupérer les restes du déjeuner, puis direction le compost et la serre.
Bonjour, on vient chercher les biosos. Les poires pas mangées, le pain, tous les fruits.
Okay.
Et tout ce qui peut se composter, quoi. Okay. Bah, on le met dedans, ensuite on le prend et on le met dans le compost.
Et ils en pensent quoi, les autres élèves, de ce que vous faites ?
Il y en a, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on cache de notre temps. Il y en a, après, ils disent que c'est bien, que c'est cool, mais qu'eux, ils ont la flemme. Donc voilà, il y a un peu de tout.
Alors là, on a la mare.
Là, il y a des nichoirs. Par exemple, il y a des abris à chauves-souris, là. Ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est qu'on a creusé des trous et on a planté deux rosiers.
Et alors, le compost, il est où ?
Il est là-bas.
Pour mélanger le compost, on doit tourner avec le brasse compost.
Oh, il y a des petits
verres. Regardez, les vers de terre, là. Et il y en a des milliers des verres.
Ouais,
oh,
bah oui,
là. Et là. Et aussi, on met du carton. Okay. Par exemple, les bacs qui sont à l'entrée, bah, quand les élèves ils mettent leur papier toilette, bah, on le met dedans parce qu'il faut aussi de la matière sèche.
Des coquilles d'œufs aussi, mais bon, il n'y a pas d'œufs à la cantine.
Ouais.
Mais...
Ah, oui. La semaine dernière, on a trouvé une larve de... Comment ça s'appelle ? Cétoine.
Voilà. Et c'est quoi ?
Et ça, c'est très bien pour la mare.
Ah.
Scarabée, ouais. On cultive aussi des légumes, des salades.
Dans la serre ?
Dans la serre, ouais.
Donc là, je suis obligée de décrire parce que les gens, ils vont pas voir. À côté de la mare, il y a des bacs avec le coin des salades.
Voilà.
Donc ça, c'est vous qui les avez plantés ?
Oui, c'est ça.
C'est nouveau, ça, les petits morceaux de bois ?
Ouais, on les a mis la semaine dernière.
Okay. Alors là, on continue sur le terrain de sport et on arrive à la serre. Alors.
Ensuite, il y a des tomates. Il y a aussi des fraises.
Ça, on a quoi ? Ça, c'est de la salade aussi ?
Les fleurs de courgettes, on dirait, ouais. C'est sûrement des courgettes.
Et
ouais.
Du coup, ici, qu'est-ce que vous devez faire, en fait ?
On doit arroser, oui, c'est ça.
On met de l'engrais et c'est tout.
Et quand il y a des légumes, par exemple, qui poussent, ou qu'est-ce que vous en faites, de cette nourriture-là ?
L'année dernière, bah, on avait donné ce qu'on avait cultivé à une association.
À tout à l'heure. Au revoir.
Reportage de Juliette Proutot au collège Courteline à Paris. Sachez que l'éducation nationale organise un concours national dans les collèges et les lycées pour désigner les meilleurs éco-délégués. Il faut faire une vidéo pour expliquer les actions menées dans son établissement. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mars 2022. Alors je me tourne vers mes invités. Quel est votre regard sur cette initiative, les éco-délégués, Guillemette Fort ?
Moi, je trouve ça absolument formidable. Je trouve juste, alors ça c'est... C'est pour le côté rabat-joie, parce qu'on
a un peu... on a le droit aujourd'hui, on a dit.
C'est que non, ce qui me brise le cœur, c'est la façon dont plein de marques vont utiliser l'envie de changer le monde des enfants pour leur en refourguer encore un peu plus. Donc c'est tout le côté on reprend votre vieux cartable et puis après on découvre que ça pourra en acheter un autre, votre vieux téléphone, etc. Et donc quand on utilise ce levier-là, qui est présent chez les gamins pour essayer de leur vendre un peu plus de choses, mais l'appétit en soi des éco-délégués, je trouve ça génial.
Manon Cousy ?
Moi aussi, je suis convaincue que c'est une très bonne initiative puisque ça leur montre vraiment que peu importe l'âge qu'on a, on peut mettre en place des solutions concrètes qui vont être durables et qui auront un impact positif sur l'environnement. Donc, ouais, je
et puis ça aide à prendre conscience de la dimension globale des choses. Hein. Quand chez soi, on fait attention à éteindre la lumière en quittant la pièce, mais qu'on se rend compte que son collège consomme beaucoup trop d'électricité, par exemple, parce qu'il est mal isolé, ça met ces fameux petits gestes pour la planète, ça les englobe dans un système, finalement.
Complètement, et ça devient, en fait, ça prend tout son sens, et c'est concret, et ça leur paraît logique de les appliquer, que ce soit à la maison ou à l'école.
Alors, pour en revenir à ce que vous évoquiez, Guillemette Fort, la façon dont les marques se servent de l'appétit d'écologie des enfants, c'est quelque chose que vous constatez de plus en plus autour de vous ?
Mais je trouve que, enfin, eux vont avoir l'impression, justement, en voyant qu'on peut rapporter à un endroit les capsules de Nespresso ou des choses comme ça, ils ont envie de faire. Donc, ils sont prêts à le faire. Et je trouve que c'est pour ça que j'ai mis l'action de ma bande dessinée sur elle se passe dans un vide-grenier.
Dans une brocante, ouais.
Parce que je trouve que le vide-grenier, c'est l'endroit où on a sous les yeux toute notre surconsommation. Où les enfants, ils voient la machine à faire des bracelets en petits élastiques ou comment ça s'appelait, les eye spinners.
Les hand spinners, c'est tout qui tournait entre les doigts et qui sont passés de mode.
Et je pense que l'année prochaine, ce sera les pop-it. Mais
on précise pour ceux qui connaissent pas, ce sont des petits anti-stress de toutes les couleurs en plastique, évidemment, les pop-it.
Et donc, je trouve que bon, à chaque fois qu'on leur dit oui, faut recycler, etc., la deuxième vie et tout. Mais l'importance, le nombre de choses enfin, qu'on voit sur les vide-greniers. Et je parle aussi des trucs pour adultes, hein, parce que les machines à pain et les verrines, je mets ça dans le même sac que les pop-it. Mais ça nous fait quand même toucher du doigt à quel point on a beaucoup trop acheté de choses. Et le fait que tout vaille 50 centimes ou 1 euro, ça dit quelque chose. Donc finalement, je trouve que ce qui est en train de se passer en ce moment, le fait qu'il y ait des pénuries sur certaines choses... ça permet de rappeler que les choses ne sont pas produites juste parce qu'on clique sur acheter sur un écran.
Ça tombe pas du ciel.
Voilà. Et qu'il y a des gens qui les produisent et qu'il faut qu'elles arrivent et que de temps en temps, il y a des matières premières qui ne sont plus là.
Allez, on poursuit ces échanges dans un instant. Je voudrais vous signaler une très belle opération menée par notre partenaire Bayard Jeunesse avec la Croix-Rouge française. Ça s'appelle les boîtes solidaires. Les enfants et les ados sont invités dans les pages de leur magazine de ce mois de décembre, Okapi, Astrapi, Phosphore et les autres, à préparer une boîte surprise qui sera ensuite offerte à une personne démunie. Pour participer, c'est très simple, il faut préparer un petit colis de type boîte à chaussures dans lequel on met un vêtement ou un accessoire pour l'hiver, pull, écharpe ou bonnet, un produit d'hygiène, un produit alimentaire non périssable, un petit cadeau, par exemple un livre ou un jeu de cartes, et aussi un mot, un dessin ou un poème. Le colis peut être décoré, bien sûr, hein, les enfants sont invités à laisser s'exprimer leur créativité de Noël. Et une fois ce paquet terminé, il faut le déposer dans une des antennes de la Croix-Rouge. Il y en a 1000 partout en France. Vous avez jusqu'au 8 janvier pour le faire. La Croix-Rouge se charge de distribuer les colis à celles et ceux qui en ont besoin. Voilà une idée toute simple pour faire un geste solidaire avec vos enfants, pour les impliquer et pour donner du sens à ces fêtes de fin d'année. Toutes les infos sur cette opération Boîte solidaire de la Croix-Rouge et Bayard Jeunesse sont à la page de Barbatruc sur le site de France Inter.
Dorothée Barba, Barbatruc.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne-t-on donc contre mon dos? Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent. classer. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Des oiseaux. Dominique A sur France Inter. Barbatruc parle d'écologie à hauteur d'enfant cette semaine, d'écologie dans la vie quotidienne surtout. Et il est temps de causer jouets. Quelques chiffres, si vous le voulez bien. 15 000 tonnes de jouets sont vendues chaque année. La durée d'utilisation moyenne d'un jouet est de 8 mois. Alors acheter des jouets d'occasion et donner les jouets dont on n'a plus besoin semble des gestes concrets et qui changent tout. Encore faut-il savoir où donner et où acheter d'occasion. Nous sommes en ligne à présent avec une entreprise basée à Villeurbanne, près de Lyon, qui récupère et qui revend des jouets. Elle s'appelle Enjouer. Bonjour Gilles Malandrin.
Oui, bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Enjouer. Comment fonctionne cette toute jeune entreprise qui est née en 2020? Expliquez-nous.
En fait, on est vraiment parti sur le même constat que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a un gâchis, un gaspillage de jeux et de jouets, des jouets qui s'accumulent dans les chambres et qui s'endorment. Donc nous, vraiment, on est parti de ce principe-là et on a voulu susciter le don. Donc, au lieu d'attendre que les jouets soient vraiment en très mauvais état, on propose des collectes pour les salariés dans les entreprises ou alors à la sortie des supermarchés ou dans les centres sociaux, les crèches, enfin tous les endroits où il y a des parents ou des enfants qui n'auraient pas forcément pensé à donner leurs jouets, mais qui là, du coup, voient qu'on peut donner une deuxième vie à leurs jouets et deuxième vie à leurs jouets tout en créant de l'emploi localement. Donc c'est assez amusant parce que en fait les gens gardent longtemps leurs jouets dans leur placard. Quand on pose la question à des jeunes ou à des étudiants, ils nous disent qu'ils ont encore des jouets de leur enfance. Et on veut pas se séparer parce que souvent, c'est lié à la croissance, il y a une relation affective. Donc nous, on vient susciter ce don et puis ensuite, on va nettoyer les jouets, on va les contrôler, on va regarder s'ils ont l'étiquette CE, s'ils sont encore aux normes. On va les nettoyer à la main avec des produits écologiques, du bicarbonate, du vinaigre. Et puis ensuite, on va les revendre dans différents endroits. On a des corners de vente dans des magasins qui sont sensibles à la fibre de zéro déchet. Ou alors, on a des ventes événementielles aussi dans les centres commerciaux ou auprès des crèches. Parce que finalement, les enfants, que les jouets aient un peu de marque du temps, on se rend compte que ça les concerne pas. C'est les parents qui sont souvent un petit peu inquiets de vouloir toujours offrir du neuf. Mais en vrai, les enfants, ils veulent un jouet qui les fait rêver, pas forcément un jouet neuf.
Alors, c'est peut-être l'occasion d'annoncer votre prochaine vente. Est-ce que vous avez une date à nous donner?
Eh ben oui, nous, on a une vente au centre commercial de la Pardieu, donc à côté de Lyon, dans Lyon, du 8 décembre au 23 décembre.
Parfait pour les courses de Noël.
C'est parfait pour les courses de Noël, effectivement, et c'est le moment... C'est un moment chouette pour nous et pour l'équipe des salariés qui travaillent sur ces jeux joués parce qu'on va vraiment rencontrer les clients, rencontrer les adultes, les enfants et qui découvrent que c'est possible d'avoir un jouet d'occasion, de qualité, contrôlé et avec une marque, c'est-à-dire avec quelque chose qui peut être offert aux anniversaires des enfants ou à Noël.
Alors la démarche, elle est écologique, mais elle est aussi solidaire, hein, je crois. Les salariés qui réparent et qui nettoient les jouets sont des personnes éloignées de l'emploi, j'ai mal entendu.
Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment les deux jambes du projet. On a vraiment un jouet bon pour la planète, parce qu'on veut vraiment être dans une économie circulaire et locale. Et nous, notre ADN, c'est aussi l'inclusion sociale. Donc toutes les personnes qui travaillent chez nous sont d'anciennes personnes qui étaient privées d'emploi. Et notre pari, c'est que personne n'est inemployable. C'est pas vrai. En fait, souvent, on met les personnes dans des situations compliquées de recherche d'emploi. Il y a du stress, il y a une dévalorisation. Et nous, les activités qu'on propose, il y a une activité qui est revalorisante, qui a du sens et qui permet à tout un chacun de développer ses compétences. Donc elles sont 9 personnes qui travaillent sur ces jeux, sur ces jouets, elles vont chercher les prix. Il y a même des personnes qui avaient jamais touché un ordinateur, ou alors très peu, là elles vont chercher sur internet le prix du neuf et elles vont mettre le prix, elles vont sortir l'étiquette. Donc c'est intéressant parce que du coup ça développe les compétences à travers ce support d'activité qui est un support vraiment intéressant pour elle.
Vous vous appelez Enjouer, je le rappelle, et vous êtes inspiré notamment de Rejouer, qui est l'une des entreprises fer de lance dans ce domaine de l'économie circulaire du jouet. Quelle est l'image du jouet d'occasion en France, à votre avis, aujourd'hui?
Et en fait, on constate que ça progresse. C'est-à-dire que sur les sites internet de vente d'occasion, c'est souvent le deuxième objet qui est le plus échangé. Là où il y a encore du mal, c'est quand il faut l'offrir à quelqu'un d'autre que son enfant. Parce que le jouet d'occasion, c'est encore l'idée qu'on va offrir un jouet au rabais, d'une part, et puis d'autre part, en fait, la notion de réemploi, la notion d'usage des jouets d'occasion, elle n'est pas partagée parmi toutes les catégories sociales. Nous, on a des personnes qui sont très très sensibles à notre message et qui trouvent ça génial, et puis il y a d'autres personnes pour qui acheter du neuf, c'est encore un signe extérieur de richesse, c'est le signe qu'on a réussi. Donc nous, quelquefois, quand on propose nos jouets dans les quartiers populaires, ça fonctionne pas forcément.
Ça fait radin un peu, pour le dire simplement, d'acheter de l'occasion.
Oui, c'est ça, ça fait un peu radin, ça fait un peu comme si nos enfants n'en valaient pas la peine, n'en valaient pas le coup. Donc il y a cette barrière-là qui est encore un peu présente. Mais nous, avec avec Rejouer, puis les quelques structures qui travaillent sur ce réseau-là, on a vraiment cette ambition que d'ici 5, 10 ans, ou peut-être même plus rapidement, acheter de l'occasion un jouet, ça sera tout aussi normal que d'acheter son téléphone d'occasion. Parce que maintenant, le téléphone, c'est devenu un petit peu plus dans les mœurs. Donc, on a vraiment cet esprit-là. On veut vraiment militer pour ce jouet qui soit un peu plus respectueux de la nature et de l'environnement. Oui.
Voilà, bientôt, ce sera cool. Et ce sera grâce à vous qu'on achète des jouets d'occasion. Rendez-vous au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon à partir du 8 décembre, donc pour vos courses de Noël, pour acheter des jouets à cette jeune entreprise qui s'appelle Enjouer, avec un E accent aigu. On trouvera toutes les infos sur votre site internet à la page de Barbatruc, franceinter.fr. Merci beaucoup Gilles Malandrin.
Merci.
Bonne journée, à bientôt.
Au revoir.
Guillemette Fort, une réaction. C'est pas demain la veille que ce sera à la mode d'acheter de l'occasion?
J'ai été très touchée par ce qu'il disait sur le fait que pour les enfants des autres, on a beaucoup plus de mal que pour les siens. Et c'est vrai, moi, une année, j'avais fait l'espèce de défi, je me souviens plus de l'association qui l'avait promu, qui s'appelait de passer une année sans rien acheter de neuf.
Ah oui, c'était rien de neuf en 2019.
Voilà.
C'était Zero Waste
donc,
France qui avait ça.
Voilà, c'est ça. Donc je l'avais fait, et contrairement à ce qu'on imagine, quand le 365e jour est passé, on se met pas à se lâcher dans un énorme shopping spree. Donc c'est vraiment bien. Mais j'avais trouvé que pour les anniversaires des enfants des autres, c'était un peu compliqué.
Gros enjeu, les anniversaires, on va y venir dans un instant avec Manon Cousy du Lab Mobile. Alors on y a consacré notre émission la semaine dernière, mais je voudrais rappeler que le salon du livre jeunesse en Seine-Saint-Denis a lieu en ce moment. Il se poursuit jusqu'à lundi, jusqu'au 6 décembre. Rendez-vous à Montreuil, mais aussi partout en France, avec des rencontres dans les librairies et dans les bibliothèques autour de la littérature pour enfants et pour ados. Et puis le salon du livre pour enfants, c'est aussi une chaîne de télévision. On y trouve des reportages, des émissions, des interviews d'auteurs et autrices jeunesse, notamment une pastille vidéo savoureuse qui s'appelle la pause kibouquine. Voici par exemple Suzy Morgenstern, l'incontournable autrice jeunesse derrière ses lunettes roses en forme de cœur. Elle répond à cette question: quel personnage auriez-vous aimé être ?
Fifi Brin d'Acier, elle est née la même année que moi. Et puis c'est mon idole, cette fille libre, sans censure, qui fait ce qu'elle veut, qui est généreuse, qui a tout ce qu'elle veut. C'est l'idéal. Fifi Brin d'Acier est toujours avec moi. Et quand j'avais des cheveux plus longs, je faisais sa coiffure. Mais j'ai jamais eu les cheveux roux.
Fifi la fille fidèle, c'est Fifi Brin d'Acier trempée. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi Brin d'Acier.
Suzy Morgenstern dans la pause qui bouquine. La télé du Salon du Livre Jeunesse de Seine-Saint-Denis est disponible gratuitement sur leur site internet et vous trouverez évidemment un lien à la page de Barbatruc.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort. Celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner. Enchaîner, enchaîner. C'est juste après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
C'était Bernard Lavillier, évidemment, sur France Inter. Nous parlons cette semaine d'écologie à hauteur d'enfant avec mes deux invités, Manon Cousy du Lab Mobile qui propose des ateliers bricolage, recyclage pour les enfants, pour les initier, pour les éveiller aux gestes environnementaux, et avec Guy Maidfort, autrice d'une bande dessinée Consommation, le guide de l'anti-manipulation chez Casterman avec Adrienne Barman pour les dessins. Je voudrais qu'on parle effectivement des anniversaires, Manon Cousy, parce que ça, c'est vraiment un désastre écologique. En général, vous proposez, vous, avec le Lab Mobile, qui est consultable notamment sur l'application Bayam, une piñata maison. Ça, c'est un truc qu'on achète tout le temps, cette espèce de gros machin sur lequel on tape avec un bâton et duquel s'échappent des bonbons. On peut faire soi-même et c'est pas si compliqué.
Et non, c'est pas si compliqué et c'est super amusant, surtout à faire ensemble, donc en famille. Mais c'est vrai que nous, les anniversaires, bon, déjà, personnellement, j'aime beaucoup organiser des fêtes, etc. Et les enfants, leur anniversaire, c'est quand même un moment très important dans l'année. Et il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même pour limiter son impact, à commencer par faire les invitations soi-même. Donc nous, dans nos ateliers, on leur montre plein de petites techniques pour fabriquer des invitations, comme une invitation qui est un carré de tissu avec un bandeau de papier autour. Et en fait, le carré de tissu va, quand ils vont le donner à leurs copains, ils vont dire, bah voilà, c'est pour emballer mon cadeau. Tu as un tissu pour faire l'emballage furoshiki, qui est une technique de nouage du Japon. Donc, pour rappeler qu'on attend un cadeau quand même. Hein. et aussi, apprendre quelque chose à nos camarades. Mais après, il y a tout. Il y a la décoration, les activités, avec notamment la fabrication d'une piñata.
Donc, la piñata avec du papier mâché. On recycle les coloriages, les vieux journaux.
Ben, recyclage de journaux, de vieux dessins, de papier brouillon, etc. Mais il y a aussi, en atelier, là, on le fait actuellement, c'est fabriquer un mini-golf en carton pour justement faire une activité pendant l'anniversaire avec, avec tous ses copains.
C'est encore plus fort que la flûte carotte, hein, le mini-golf.
Le mini-golf, ouais, c'est vrai.
En carotte.
On recycle plus.
Guillemets de fort, l'anniversaire, c'est vraiment une étape compliquée hein, dans la vie d'une famille qui veut être éco-citoyenne.
Oui, alors dans la bande dessinée, j'essaie de montrer l'évolution de l'anniversaire à travers le temps, entre l'époque
de 10 ans en 10 ans,
des années 80 avec un gâteau au chocolat décoré avec des Smarties et c'est tout, jusqu'à imaginez maintenant quand on invite 20 gamins
chacun son petit sachet en plastique avec des petits cadeaux en plastique pour repartir.
Mais en fait,
à la maison.
En essayant d'expliquer ça aux enfants, je sais très bien que c'est très limité, parce qu'en fait, quand on a beau dire, il y a 20 ans c'était comme ça, ou il y a 30 ans c'était comme ça, les enfants avec qui ils sont en classe, c'est pas les enfants d'il y a 20 ans et d'il y a 30 ans, donc c'est pas avec eux qu'ils vont comparer. Et c'est vrai que moi j'étais complètement consternée de voir qu'on commençait maintenant à trouver des bougies de demi-anniversaire pour les 6 mois. Ou alors, il y a des parents qui vont vous dire, il est né en novembre, mais en fait son anniversaire au mois de mars, parce qu'on n'aime pas les anniversaires en hiver et qu'on veut aller jouer dehors. Donc en fait, il y a ce côté, maintenant, on a entre guillemets, droit à un anniversaire géant dans les McDo, dans lesquels on peut fêter son anniversaire. McDonald's m'avait dit qu'il s'en fêtait 2 en moyenne par semaine. Donc c'est l'idée qu'à chaque fois qu'on organise un gros anniversaire, non seulement on se met dans cette situation soi-même, mais on met aussi la pression sur les autres parce qu'on va les encourager à faire la même chose et on va définir une espèce de norme collective sur l'idée que maintenant un anniversaire c'est ça, avec effectivement ce qu'on appelle les party favors, les petits cadeaux qui vont être que des merdouilles évidemment et sur lesquels quand on va marcher pieds nus on va se faire très mal aux pieds. Mais c'est vraiment un gâchis gigantesque parce que en plus comme on va avoir plein d'anniversaires dans l'année, à chaque fois on va arriver avec des petits cadeaux entre 5 et 10 euros qui finalement pour la plupart
finiront en vide-grenier comme vous le disiez tout à l'heure.
Exactement, donc en fait le seul moteur pour organiser ces anniversaires là c'est souvent la culpabilité à l'idée de pas offrir la même chose que les autres.
C'est ça. Le problème c'est toujours la mode. On en revient au hand spinner et au pop-it. Comment lutter contre la mode? Comment faire comprendre aux enfants que tout est démodable?
Mais moi je suis vraiment d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure sur le fait que les activités à faire soi-même, les jeux ensemble, etc., ça laisse des souvenirs bien plus forts que de déballer 12 merdouilles. Mmh. Voilà.
On le disait tout à l'heure, Guillemette Fort, comprendre les mécanismes du marketing, c'est la meilleure manière de convaincre les enfants et les ados qu'ils sont manipulés, entre guillemets. Vous abordez dans votre bande dessinée le marketing de genre. Et ça n'est pas rien parce que, au-delà de l'aspect sexiste, de l'idée de faire des produits pour les filles et des produits pour les garçons, c'est aussi une manière de nous faire consommer plus.
Ah oui, moi, ça, par exemple, dans les détails qui m'ont sidéré, il y a par exemple la pâte à fixe rose ou les apéricubes soirée de filles. Enfin, ces produits qui avaient vraiment pas besoin d'être genrés. Mais quand on demande aux parents, quand ils étaient enfants, de quelle couleur était leur vélo, de quelle couleur était leur trottinette, on se rend compte que des parents qui ont eu des vélos rouges, des trottinettes rouges, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller aux filles comme aux garçons, pensent maintenant que c'est obligatoire d'avoir ou la rose et la verte. Et en fait, l'intérêt du marketing de genre, c'est effectivement, c'est de doubler tous les achats au foyer à partir du moment où il y a une fille ou un garçon. À partir du moment où le garçon ne voudra pas monter sur le vélo rose.
Voilà, si la trottinette est rose, on ne peut pas la refiler au petit frère ensuite.
Et donc, en donnant l'impression qu'il y a plus de choix, parce qu'il y a, du rose et du kaki, ou du noir, ou du marron, enfin, en fait, on limite leur choix possible. Si vous allez au rayon jouets, par exemple au rayon des boîtes de jeux scientifiques, expériences scientifiques, quasiment sur toutes les boîtes, ce sont des garçons en photo. Et si vous cherchez, si vous avez un fils qui est amateur d'équitation, tous les livres de poney d'équitation, maintenant, sont avec des couvertures roses et rayons filles. Donc en fait, on limite les choix possibles qu'ils vont avoir en leur disant qu'est-ce qui leur est réservé pendant que les entreprises doublent ce qu'elles pourront vendre. Quoi.
Vous confirmez l'une et l'autre que le mouvement durable va dans les deux sens, que les adultes éduquent les enfants, mais les enfants aussi bousculent leurs parents. Maintenant,
complètement, parce que je le vois. En fait, il y a beaucoup d'adultes et on a beaucoup de barrières en tant qu'adultes à changer nos habitudes, etc. Ce que les enfants n'ont pas du tout. Les enfants, à partir du moment où, pour eux, ils vont décider que c'est bien ou que c'est mal, ils vont vouloir l'appliquer dans leur quotidien. Je le vois sur... Il y a des enfants qui, jusqu'alors, pensaient qu'on ne pouvait boire que de l'eau en bouteille. Dans nos ateliers, on leur a dit, bah non, l'eau du robinet est potable, vous pouvez la boire. Et donc... L'atelier d'après, ils m'ont dit, voilà, j'ai goûté l'eau de mon robinet, c'est vrai qu'elle est bonne. Et j'ai dit aux parents que maintenant je ne boirai plus d'eau plus d'eau dans une bouteille. Donc, ils participent au changement.
Même après, en pique-nique, même en vadrouille.
Même en pique-nique, même en vadrouille. Il y a plein de solutions. La gourde.
Allez, place à l'actualité du livre pour enfants à présent. Denis Chessou nous conseille chaque samedi ses albums préférés. Au menu cette semaine, un géant élégant et une petite crocodile. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz sur France Inter. La tulipe, mon petit loup.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. On débute par la fabuleuse histoire du géant Théophile de Marc Bauger et Édouard Baribeau aux éditions Thierry Magnier à partir de 5 ans. Un jour, comme beaucoup d'autres, fut celui d'un heureux événement.
À 15h38, en la clinique du Bois Éveillé, Théophile naquit dans un cri strident. Il pesait 11,3 kg et mesurait 86 cm.
Il faudrait dès lors préciser un grand événement.
Les jours passèrent et le petit Théophile ne cessa de grandir.
Sa croissance inarrêtable rendait tout son quotidien trop petit. Même ses parents venaient à douter de leur capacité à pouvoir s'occuper de lui.
En classe, il ne tenait pas sur le banc. Dans la cour, il ne rentrait pas dans la cabane.
Il était hélas difficile pour lui de s'intégrer.
Et plus les années passaient, plus Théophile souffrait de sa différence. Effrayé par sa taille, la plupart de ses camarades refusaient de lui parler, sinon pour se moquer de lui.
Il l'appelait la montagne. Heureusement, Lucille était là pour prendre sa défense.
« Bah, moi je préfère la montagne à la mer. »
Le plus compliqué pour lui, c'était de s'habiller. Sa mère était obligée de coudre plusieurs vêtements pour en faire un seul tout bariolé et étroit. Un jour, devant une boutique de costumes, le tailleur ne tarda pas à prendre ses mesures. Et un grand costume bleu marine l'attendait.
Pour la première fois, Théophile portait un vêtement à sa taille.
Il était enfin libre de ses mouvements et cela gonfla considérablement son assurance dans sa vie personnelle comme dans sa carrière.
Les mois qui suivirent, il fit réaliser par le petit tailleur un costume en tweed, puis un en velours marron. Il eut aussi un costume en prince de Galles et finalement un par-dessus en laine à chevrons.
Sa nouvelle passion pour les vêtements était née.
C'est d'ailleurs en expliquant à Lucille la différence entre les cols de chemise français, anglais, italien et américain qu'il avait fini par la séduire.
Alors si l'habit ne fait pas le moine, il peut toutefois permettre de prendre confiance en soi. La fabuleuse histoire du géant Théophile, c'est un album sur la différence qui montre comment, par la passion, on peut parvenir à trouver sa place en plus d'une source de bonheur.
Et c'est aussi une plongée dans le monde du textile, Denis.
Alors, qui étonne vraiment par la précision de ces sujets vestimentaires abordés, hein, thématique pour le moins originale. Et d'ailleurs, cela se retrouve, si vous voulez, dans l'illustration où l'esthétique de la gravure semble avoir baigné. Alors, vous avez dans un arc-en-ciel, on va dire, pour des images qui sont texturées et colorées. Marc Bauger et Édouard Baribeau proposent ainsi un livre singulier qui sera raisonné par son sens universel et par son encouragement à rêver, oui, mais en grand. La fabuleuse histoire du géant Théophile, c'est chez Thierry Magnier à partir de 5 ans. Odile est signé Grégoire Solotareff à l'école des loisirs. Ça, c'est pour les 4-8 ans.
C'est l'histoire d'une crocodile qui croyait être une enfant.
Ses parents la raisonnent. Tu ne vas pas à l'école, Odile. Tu joues toute la journée à la rivière.
Ben, j'apprends tout à la rivière. Et puis, je m'appelle Odile et non Croc Odile. Odile, tout simplement. Ce n'est pas un nom d'enfant.
Un jour, elle croise Joe, à qui elle fait peur, mais rapidement, ils deviennent copains. Comme lui, elle aimerait avoir ses cheveux.
Et si tu veux, demain, je t'en apporte. Ma mère est coiffeuse, il y a plein de perruques à la maison.
Et ses parents embarrassés savent quand même, dans le fond, qui est leur rejeton. Mais il y a eu un petit incident. Odile, en jouant avec Joe, croqua une mouette qui lui avait volé son goûter. Joe est horrifié.
C'est dégoûtant. Je veux plus jouer avec toi.
Alors Odile est triste de l'avoir déçu et c'est le temps de la distance, du silence, de la réflexion. Et puis retrouvailles, cette fois en petite crocodile assumée. Eh ben oui, ils sont différents avec Joe.
Et c'est aussi un récit initiatique, Denis.
Eh ouais, comme souvent chez Solotareff, hein, qui travaille avec ses couleurs franches, son style, ses angles, ses contrastes. Donc histoire d'une enfant qui n'est pas à l'aise avec ce qu'elle est au départ, mais c'est aussi l'histoire donc d'une rencontre de l'autre sans préjugés, de s'accepter comme on est, de savoir qui on est, le tout sans la moindre mièvrerie lourdingue. Et alors la couverture folle dingue, disons-le, de la croque Odile en perruque blonde, ça vaut quand même sacrément le détour. Odile, c'est à l'école des loisirs, c'est pour les 4-8 ans. Merci à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures et une bonne fin d'émission, Dorothée.
Merci beaucoup, Denis Chessou. Les titres et références des livres conseillés sont sur la page de L'as-tu lu, mon petit loup, franceinter.fr. Je suis toujours avec mes deux invités, Guillemette Faure et Manon Cousy. Alors, nous avons parlé ensemble d'écologie pratique, ludique pour les enfants et les ados. J'ai à présent une dernière question à vous poser, question rituelle. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Manon Cousy.
L'odeur de mon enfance, je dirais le jasmin. Le jasmin, je vivais en Tunisie, donc c'était le jasmin. Les après-midi passés à jouer dans le jardin avec les copains.
Et c'est une odeur qui a un pouvoir de voyage dans le temps.
Complètement. Mmh.
Guillemette Faure.
La colle Cléopâtre.
Ah.
Parce que je ne peux pas voir des fournitures scolaires sans avoir envie de les renifler.
Ça sent moins bon aujourd'hui que la colle Cléopâtre, non?
Oui, mais il reste encore les marqueurs, l'odeur des cahiers Clairefontaine. Enfin, moi, j'adore renifler les fournitures scolaires.
Ok, pourquoi pas. Du jasmin et de la colle Cléopâtre. Je mets sous cloche ces deux odeurs et elles rejoignent notre inventaire olfactif de l'enfance. Le lab mobile de Manon Cousy propose donc des stages, des ateliers et des vidéos pour inviter les enfants à se relever joyeusement les manches pour la planète. Beaucoup de bricolage écolo. On trouvera un lien sur notre site internet. Et je rappelle le titre de votre bande dessinée, Guillemette Faure, Consommation, le guide de l'anti-manipulation en BD avec Adrienne Barman chez Casterman pour aider les enfants à devenir des consommateurs et consommatrices avertis. Merci beaucoup mesdames, à bientôt.
Merci.
Et bonne journée.